Non, j'ai arrêté. On a trouvé que c'était une ville assez représentative. Enfin, c'est une petite ville d'importance moyenne, une ville française. Et... enfin, on a pensé que c'était assez... Et ça fait longtemps que vous êtes orléanaise,
enfin. Oui, je suis orléanaise.
Vous êtes née à Orléans.
Mes parents sont orléanais et
oui.
Je suis née ici, dans la maison.
Oui.
Parce que dans ce temps-là, on n'accouchait pas à l'hôpital.
Oui. Et vous aimez bien Orléans, vous vous
Moi, j'aime beaucoup Orléans. Je suis assez chauvine.
Oui. Qu'est-ce que vous aimez à Orléans?
Qu'est-ce que j'aime à Orléans?
Oui. Le quartier, déjà, c'est...
Non, j'aime pas le quartier.
Non? Moi, j'aime bien les petites rues. Comme
oui,
ça,
évidemment, on aime bien les petites rues parce que... Oui. C'est assez typique, il faut dire qu'elle a été pavée par les Gaulois Marus, là. Hein.
Ah bon?
Oui, elle est très, très, très ancienne. D'ailleurs, vous voyez le style des maisons.
Oui, oui.
Mais malheureusement, ce sont c'est des loyers très peu chers.
Oui.
Alors, c'est des gens, évidemment,
ah oui.
Pas toujours très bien qui viennent y habiter. Vous voyez, ils payent pas de loyer, souvent.
Ou très peu.
Oui, même. Les loyers sont peu chers et... Et ils ne payent pas parce que, bon, bah, ils ne sont pas très courageux, ils ne travaillent pas. En plus, il y a l'alcool, tout ça, vous voyez. Ça, c'est un peu... Tous les quartiers de la Loire, c'est un peu cette mentalité-là.
C'est bizarre parce qu'en fait, les bas quartiers, c'est les plus agréables, les quartiers près de la Loire.
Peut-être.
Enfin, moi, je sais que...
La majorité des gens, c'est comme ça, mais il y a aussi des exceptions.
Oui.
Il y a des gens très bien qui habitent la rue, hein.
Et vous envisagez de rester à Orléans ou de changer
De rester moi personnellement
oui.
Ben moi j'aimerais bien partir pour aider les pays du tiers-monde.
Oui. Ouais. Mm-hmm. Oui, ça. Parce que vous avez d'abord été puéricultrice.
Oui, auxiliaire de puériculture. C'est très différent de puéricultrice. Hein.
Oui.
C'est justement pour devenir puéricultrice que je fais mes études d'infirmière.
Oui. Et en quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'on fait comme
auxiliaire de puériculture?
Oui.
C'est, si vous voulez, on remplace la mère de famille.
Oui.
C'est un rôle d'éducateur auprès des tout-petits, de 0 à 3 ans.
C'est mignon, ça.
Oui. Et notre rôle, c'est de remplacer la mère de famille, mais... comme il y en a encore, vous voyez, dans les hôpitaux, on préfère employer des gens non qualifiés parce qu'on les paye moins cher. Les auxiliaires de périculture qui ont un an d'études, on les emploie pour faire du travail hospitalier. Alors, quand on fait du travail hospitalier, normalement, vous voyez, on remplace la maman, quoi. On fait tout ce que la maman fait. Donner à manger, l'échanger, la lessive des petites affaires, le ménage de la chambre de l'enfant.
Oui.
Et puis alors, on a aussi des cours sur le développement, sur la puériculture, sur les maladies infectieuses, pour que quand l'enfant ne pousse pas normalement, quand s'il a quelques symptômes, qu'on sache tout de suite de quoi il s'agit, qu'on ne s'affole pas pour rien et qu'on ne fasse pas venir le docteur inutilement.
Oui.
Alors, en principe, c'est ça le vrai rôle
de
l'auxiliaire de puériculture. Mais elles sont employées dans les hôpitaux et font un peu un travail hospitalier. Vous voyez, dans les maternités, tout ça. Elles font le rôle d'être soignantes.
C'est plus ou moins intéressant?
Ben, ça dépend. Ça dépend du caractère de la fille, quoi.
Oui.
Parce qu'il y en a qui viennent à l'école d'auxiliaire de puériculture qui ont envie de faire des choses beaucoup plus infirmières. Puis elles sont déçues quand on ne les fait pas. Parce qu'avant d'entrer, justement, c'est très faussé dans l'esprit des gens. On confond aussi à périculture, aide-soignante, infirmière, péricultrice, assistante sociale, ça c'est...
Oui, tout est confondu. Oui. Et on manque plutôt de personnel dans les hôpitaux.
Oui.
Beaucoup. Comment ça se passe?
En ce moment, il y a un gros progrès, mais...
Il y a un progrès en ce moment.
Oui. Enfin, à Orléans, depuis qu'on a un nouveau directeur, vraiment, il y a du changement. Puis aussi au point de vue travaux. Parce qu'on avait un très vieil hôpital et on est en train de le rénover. En train de le rendre moderne.
Oui.
Mais alors, il ne faut pas que ça soit uniquement les murs qui deviennent modernes. Il faut aussi changer toute une mentalité, vous voyez.
Oui.
Pour pas que les gens... je ne sais pas si on vous a dit dans vos études, mais il y a des différentes régions dans la France où les gens vont beaucoup plus à l'hôpital que dans d'autres.
Ah non, non. Hein? Non, je ne sais pas.
Les statistiques prouvent que, par exemple, dans la région de l'Est, 75% des malades vont à l'hôpital et 25 en clinique. Tandis que chez nous, tout le monde va en clinique.
Pourquoi?
Ceux qui vont à l'hôpital, parce qu'ils pensent que c'est mieux la clinique. Parce que les murs sont beaux, on les accueille comme ça, tout ça. Alors, ils vont tous en clinique, tandis que chez nous, ils viennent à l'hôpital. Alors, en les malheureux viennent à l'hôpital. Mmh. Alors, on a souvent des étrangers, des pauvres gens.
Oui.
Alors, là, il y a une mentalité qui est en train de se changer, parce qu'on a des médecins à temps complet qui travaillent. Mmh. Et qui sont vraiment des types bien et qui font leurs preuves. Alors les gens maintenant font un peu plus confiance et viennent à l'hôpital.
Parce que vous voyez les choses de près et les gens sont aussi bien soignés à l'hôpital qu'à la clinique.
Ils sont mieux soignés normalement. Au point de vue soins, c'est, de toute façon, les médecins qui sont à temps complet ou même qui travaillent à l'hôpital sont toujours les mieux choisis, vous voyez.
Oui.
Parce qu'on demande beaucoup de diplômes, enfin, on veut que ce soit des gens sûrs.
Oui.
Vous voyez, en ce moment, là, je vous dis ça parce que vous entendez du bruit. Mm. Les propriétaires qui avaient donc des gens qui ne pouvaient pas payer ont éjecté leurs gens. Et c'est que des Portugais qui les ont remplacés, qui habitent le quartier. Alors, c'est pour ça qu'ils sont toujours très, très chauds. Hein.
Ils sont toujours en train de chanter.
Oui, tout ça. Alors, c'est pour ça, maman, elle va lui dire, arrête
de se calmer un peu. Ah bon, ils sont toujours en train de chanter.
Oui, chanter ou bien... Enfin, ils sont très, très ouverts, très... Ils s'extériorisent beaucoup, quoi, comme c'est leur nature. Mm. Alors, vous dire que... c'est des Portugais qui ont remplacé les Français et on en a profité pour leur faire payer dans des logements où il y a Palo, où il y a Palais Water, 15 000 balles par mois au lieu de 2 000 avant, vous voyez.
Oh là là. Et il n'y a rien pour protéger, là, pour les protéger enfin,
bah justement, j'aurais bien aimé savoir, mais.
Parce que c'est
si
quand
vous
même.
Vous pouvez faire quelque chose.
C'est quand même un peu dégoûtant.
Oui, c'est dégoûtant.
Et eux le savent?
Les Portugais, non, parce qu'ils arrivent de leur pays, ils sont très contents de trouver un logement.
Oui.
Alors, ils acceptent n'importe quoi, quitte à avoir très peu. Alors, vous voyez, ils vont se débrouiller un peu, peut-être un an, deux ans, puis après, ils vont chercher quand ils seront habitués en France.
Oui.
Ils vont chercher un appartement mieux et où ils essaieront moins de se faire avoir.
Oui. Parce que, je ne sais pas, il ne devrait pas y avoir un contrôle des loyers ou, enfin... C'est à la mairie, la municipalité de s'occuper de ça.
Ben
je ne sais pas comment ça s'organise, mais... Pour revenir à votre travail, est-ce que vous pouvez décrire comment ça se passe une journée?
Alors, mon travail d'élève infirmière ou le travail d'auxiliaire de puériculture?
Les deux. Commençons par auxiliaire de puériculture.
Alors, une journée, par exemple, à la maison de l'enfance.
Oui. Attendez, j'arrête une minute. Oui, alors ça se passe comment la journée à la maison de l'enfance?
Alors, on arrive en général. Alors, par exemple, un service type, la pouponnière.
Oui.
Alors là, vous avez des enfants de 0 à 3 ans, on peut dire de 0 à 3 ans, parce qu'ils viennent directement après la maternité.
Oui.
Vous voulez savoir quel genre d'enfant on reçoit?
Oui.
Alors, on reçoit justement des enfants de parents tuberculeux.
Oui.
Pour les isoler.
Oui.
Parce que la tuberculose n'est pas héréditaire, mais on peut la contracter très facilement après la naissance.
Alors,
on sépare donc l'enfant de sa mère, mais l'enfant n'est pas tuberculeux.
Oui.
Alors là, on va lui faire les vaccinations nécessaires.
Oui.
Alors ça, c'est une première catégorie d'enfants. Une deuxième catégorie, les cas sociaux. Alors ça, c'est que ça. C'est presque son rôle.
Il y en a beaucoup à Orléans.
À la maison de l'enfance, oui.
Oui.
Il y a une maison où il y a 300 enfants, c'est que de ça.
Oui.
Alors... enfants de parents divorcés, mais voyez, qui sont plus ou moins capables de s'occuper de leurs enfants.
Mmh.
Et puis alors, tous ceux qui sont retirés parce qu'ils sont mal chez eux, quoi.
Oui.
Mais autrement, dans cette pouponnière, il n'y a pas d'enfants malades.
Mmh.
C'est que des enfants sains.
Mmh.
Mais évidemment, ils sont tous un peu hypotrophiques, c'est-à-dire d'un poids et d'une taille... inférieure à la normale.
Oui.
Et très maigrichon. Enfin.
Oui.
Alors le matin, on arrive, on leur donne leur petit déjeuner.
Oui.
Leur biberon, on fait leur toilette, alors
oui.
Des bains tous les jours.
Vous vous enlacez ou vous aimez toujours bien faire ça?
Ben, on aime toujours bien.
Hein. Oui.
Mais on a toujours envie de faire quelque chose de mieux.
Oui.
Non, ça c'est l'homme. On veut toujours avoir quelque chose de... Alors, en principe, les personnes qui font ça aiment beaucoup leur métier, ce qu'il faut aimer avant tout. Parce que sinon, on remplace la mère de famille. Et pour le gosse, c'est tellement important qu'il se sente aimé, même tout petit comme ça. Il faut le prendre dans ses bras. Alors, on l'habille le plus beau possible. On a des tas de petits vêtements qu'on repasse l'après-midi, qu'on lave. Alors, le matin, on le remet. Et puis, quand on a fait tout ça pendant toute la matinée, donner à manger, laver les gosses, les habiller, ranger la pièce pour que ce soit agréable, c'est le repas à nouveau du midi. Et après, on s'en va, c'est la sieste. Et on recommence l'après-midi, on les change, on les fait boire, on les amuse. C'est vraiment le rôle d'une mère de famille. Donc, pas routinier, c'est pas un métier routinier, parce que les gosses, c'est chaque jour différent.
Vous aimez mieux ça que de vous occuper de malades adultes de...
Là, il faut faire deux...
Moi, je sais que j'aimerais bon mille fois mieux, mais...
Malades adultes. Moi, en ce moment, je m'occupe uniquement de malades adultes puisque je fais mes études d'infirmière.
Oui.
Mais c'est vraiment deux mondes séparés et qu'on ne peut pas comparer. J'aime beaucoup m'occuper de malades adultes. Et je m'ennuie pas du tout avec eux et on s'apporte mutuellement beaucoup. Mais j'aime les gosses et je veux devenir péricultrice.
Finalement, entre les deux, vous choisissez de...
Mais en principe, les filles qui font comme moi, elles restent plus vers les adultes. Elles retournent rarement vers les enfants.
Comment ça se fait?
Parce que les contacts sont très différents. Les contacts avec les adultes... il y a pas besoin de... Bien sûr, on les sent, mais... Vous voyez, on se parle, le même langage, tout ça. Tandis qu'avec les enfants, il faut plus que ce soit intérieur, les sentir. Et puis, on a une personnalité plus apte à s'occuper des gosses.
Oui. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous déplaît dans votre métier? Quelles sont les choses qui vous plaisent le plus et les choses qui vous déplaisent?
Les choses qui... Moi, je sais pas, il n'y a pas de choses qui me déplaisent. Mon métier, c'est un tout, et comme c'est un tout, tout me plaît en son sein, quoi.
Oui.
Bien sûr, il y a des choses qui sont plus ennuyeuses à faire, mais c'est dans tous les métiers, ça. Oui. Alors, je peux pas dire ça me plaît pas.
Qu'est-ce que vous pensez des femmes mariées qui travaillent? Femmes mariées avec des enfants, avec des petits...
Ça peut apporter beaucoup parce qu'on a des malades de toutes sortes. Quand elles sont... Voilà, je parle sur le plan malade, après je dirai sur le plan... Sur le plan malade, ça apporte beaucoup parce qu'elles comprennent encore plus les gens, étant donné qu'elles ont les mêmes problèmes, les gens mariés.
Ah, vous voulez dire d'avoir une infirmière mariée?
Oui.
Ah oui, d'accord, oui.
Hein? Et puis même qui ait des enfants, elle comprend le problème de la mère de famille. Mais c'est ennuyeux parce que elle est souvent arrêtée, parce qu'elle a envie d'être avec son mari, alors elle choisit ses jours de congé, etc. quoi.
Oui.
Et au point de vue auxiliaire, en général, les mères de famille, dès que les filles se marient, toute leur attitude change. À partir du moment où elles ont un gosse à elles, voyez, elles sont plus du tout pareilles envers les enfants des autres.
Ah bon?
Ah oui, ça c'est flagrant.
Ça les intéresse moins. En fait.
Oui, parce qu'elles ont un gosse à elles, alors c'est leur gosse qui est le plus beau, qui a tout. C'est normal,
oui,
ça.
Oui. Voilà.
Alors, nous, les célibataires, on a toujours des petites préférences. Alors on dit, ça c'est mon fils, même ça l'est pas. Hein.
Oui.
On dit, c'est mon fils, mon gosse. On en a plusieurs. Oui. Mais après, quand on est femme mariée, ça se perd, vous voyez, on est moins... appelé à aimer intensément plus un qu'un autre.
Oui, oui. Et du point de vue, pas spécialement du point de vue du travail, mais enfin pour les femmes, qu'est-ce que vous pensez du travail des femmes mariées en général? Est-ce que vous pensez qu'une femme mariée avec des enfants petits, est-ce que c'est bon qu'elle travaille? Vous êtes pour ou contre? Enfin,
moi, une femme mariée qui a des enfants petits doit d'abord... être présente à ses enfants, surtout dans notre métier, avant d'être présente aux autres.
Oui.
Mais une femme mariée sans enfants, je suis pour qu'elle travaille.
Oui.
Ou alors
oui,
quand les enfants sont grands.
Oui.
Quand ils ont grandi, qu'ils vont en classe, au contraire. Mais tout petit, non.
C'est mieux de...
Rien ne remplace la présence de la mère de famille. Vous ne pouvez pas savoir comme les gosses sont traumatisés quand ils viennent à l'hôpital ou à la maison de l'enfance, qu'ils n'ont plus leur mère, qu'on les sépare de leur mère, si c'est mal ou bien qu'elle soit, quoi.
Oui.
Il y a des gosses qui sont bon, mal, qui n'ont pas beaucoup à manger chez eux, qui sont mal vêtus, sales, mais c'est leur mère et... Même la mère, elle s'occupe mal de son gosse, mais elle l'aime à sa façon. Et rien ne remplacera cette mère-là au point de vue affectif.
Oui, même s'il y a, par exemple, moins d'hygiène qu'à la pouponnière,
oui,
je
ne
sais
bien
pas quoi,
sûr.
Ça vaut mieux que ce soit. Enfin, au maximum, il faut éviter de séparer les gosses de leur mère.
Ah oui, ça, il faut éviter.
Oui. Oui. Et si vous ne faisiez pas ça, est-ce que vous aimeriez faire autre chose ou vous n'avez jamais pensé à rien d'autre?
Moi je vais à Paris par exemple, je vois des bouquinistes, je me dis ça me plairait d'être bouquiniste, mais je vais ailleurs dans le commerce, j'aimerais beaucoup être dans le commerce,
oui.
Vous voyez, je suis pas...
Oui, vous êtes ouverte à...
Ouais, je suis ouverte à tout.
De choses. Oui.
Par exemple aussi, je m'occupe de jeunes, bon bah quelquefois je vais dire éducatrice, ça serait bien, ou animatrice loisirs, ou directrice de maison de jeunes.
Vous avez vu la maison
Je me vois partout,
là,
moi.
À Orléans.
Oui.
Oui.
Ah oui, j'ai vu, j'ai participé à...
Oui.
Enfin, j'ai été voir...
Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que c'est très bien, mais que c'est malheureusement pas ouvert à tout le monde, parce que les ouvriers, ben, ils se sentent pas à l'aise dedans.
Ils se sentent pas à l'aise.
Voilà.
Oui.
Moi, je m'y sens à l'aise, parce que maintenant, je suis d'un milieu.
Oui.
Enfin, on est plus intellectuel, quoi. Mais les ouvriers qui travaillent, non.
Et pourquoi ils le disent? Et pourquoi ils ne s'y sentent pas à l'aise? Parce que ça fait trop intellectuel.
Oui, ça fait trop intellectuel. Oui, mais remarquez, hein, je veux être modérée parce que c'est très difficile. Parce qu'on ne peut pas non plus... Il faut que ça vienne, quoi. Peut-être qu'avec l'école plus vieux, ça... Parce que les jeunes qui sont en apprentissage, qu'est-ce qui leur plaît dans leurs loisirs? Bah, jouer à des trucs électriques, là, au machin.
Oui,
Vous savez, au truc, là, qu'on tourne.
Au football.
Oui, au petit football miniature, des trucs comme ça, quoi.
Oui.
C'est peut-être plus le style maison de jeunes.
Oui, alors peut-être qu'il faut, je sais pas...
Ou peut-être que s'il y avait un ouvrier qui y allait, il entraînerait ses copains et ça se ferait...
Oui.
Ça se ferait comme ça, mais pour le moment, c'est... C'est pas ça, hein.
Alors, à Orléans, qu'est-ce qui va à la maison de jeunes?
C'est pas... À la maison de la culture.
À la maison de la culture, je dirais.
Bah,
c'est les étudiants.
Ouais.
C'est les étudiants. Oui. Donc, en fait, ça remplit
enfin,
pas tellement...
Enfin, regarde, dans notre milieu non plus, ça, les gens n'y vont pas tellement.
Oui.
Nous, on va au théâtre, on va se détendre, quoi, quand ils font quelque chose de bien, mais on participe pas à ce qu'ils font. D'ailleurs, on ne sait pas, on manque d'informations. On ne sait pas s'il y a des trucs d'organiser auxquels on pourrait participer.
Oui. Et quand vous avez du temps libre, qu'est-ce que vous faites?
Moi, je suis scout de France, alors vous savez, je...
Alors, ça vous occupe beaucoup,
ouais.
Ça? Oui. Et, par exemple, comment est-ce que vous avez passé dimanche dernier?
Dimanche dernier, exceptionnellement, j'ai passé en famille.
Oui. Mais enfin, généralement, vous vous occupez de...
Oui, je m'occupe de Châtaigne de Louveteaux.
Des Louveteaux.
Oui, je suis animatrice louvetisme sur Orléans, c'est-à-dire responsable d'un secteur déterminé sur Orléans.
Oui.
Alors, ça dépend. La formation des cheftaines, et puis quand elles ont des problèmes, enfin, j'ai leur responsabilité, vous voyez, ça. C'est une hiérarchie bien déterminée dans le scoutisme, et moi, je suis... un peu responsable du plan Orléans.
Oui. Et ça vous intéresse en fait?
Ça m'intéresse parce que j'y crois.
Oui.
Je crois à la formation des jeunes dès leur enfance et en pensant que nous toutes, cheftaines, on contribuera avec les parents bien sûr, en faire des hommes entiers.
Oui.
Et justement, le monde et l'avenir dépendent de ces hommes de demain.
En parlant de formation comme ça, pour les jeunes, puisque vous pensez que c'est très important, quel devrait être le rôle de l'école? Qu'est-ce que l'école devrait surtout apprendre aux enfants?
Moi, je trouve que c'est déjà pas mal ce qu'elle fait. Personnellement, j'ai toujours eu de bons... Je vois dans l'école où j'ai été, j'ai eu des bons éducateurs, enfin une bonne maîtresse. Et vraiment, elles ont beaucoup participé à mon éducation et
oui.
à ce que je suis devenue. Quoi.
Oui. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du latin? Est-ce que vous pensez que c'est utile ou inutile?
Moi, personnellement, je ne connais pas le latin. Alors... Il faut toujours être cultivé, mais...
Oui.
Je trouve que c'est du snobisme, et puis c'est tout. Mm.
Vous trouvez que ça n'a pas d'utilité réelle?
Non. Pour se cultiver, on peut faire des tas de choses, hein, mais imposer le latin, genre...
Oui. Oui.
Étant donné que je le vis pas, vous comprenez, je peux pas dire si je... Si ça, ça m'embêterait de l'apprendre ou pas.
Mm.
Comme moi, j'ai toujours été qu'à l'école primaire, jamais en secondaire.
Mm.
Que j'ai essayé d'atteindre mon niveau de l'école d'infirmière, examen d'entrée entre BEPC et première partie de bac. Comme ça, en suivant des
en
cours,
travaillant
personnellement. Puis j'étais à des cours organisés par l'hôpital.
Comment ça, vous devez avoir des horaires très très chargés avec... Entre votre travail, le travail pour l'examen, le scout, tout ça.
Oui, j'arrête pas. Hein. Mes journées sont pas assez longues.
Et si vous aviez 2 heures de temps libre supplémentaire par jour, qu'est-ce que vous en feriez?
Oh, mais ces 2 heures de temps libre seraient mangées sur quelque chose, parce que la journée n'a que 24 heures et n'en aura toujours que 24.
Oui.
Alors, à quoi vous pensez quand vous dites ces 2 heures de loisir?
Bah, je veux dire... Je crois qu'on va, les gens quand même, on va vers une réduction des horaires et je sais pas, ça m'intéresserait de savoir comment les gens envisageraient de passer.
Donc un plus grand étalement des études alors.
Oui.
L'an prochain d'ailleurs, c'est ce qu'il va y avoir. 2 heures de loisirs, eh ben je lirai peut-être plus.
Oui.
Puis je me détendrai un peu plus. Mais je crois que, je dis ça maintenant, mais je crois que si j'avais mes 2 heures, je continuerais à... À être très active pendant les 2 heures.
Oui, parce que vous êtes
mais je consacre beaucoup de temps aux autres aussi.
Oui.
Aux autres, je veux dire à mes camarades, bon, bah, quelqu'un qui a besoin de parler, je prends le temps de l'écouter quand je vois que c'est nécessaire. Quoi.
Oui.
Et je pense que ça, c'est pas du temps perdu ni gâché.
Oui.
Mais j'en consacre peu à ma famille.
À votre avis, qu'est-ce qui fait que les enfants réussissent ou ne réussissent pas à l'école?
Bon, il y a peut-être une question santé. Les statistiques ont prouvé qu'après l'opération des végétations adénoïdes, les enfants allaient beaucoup mieux.
Ah bon?
Ils prenaient beaucoup mieux. Ouais. Alors.
Enfin, pour les enfants qui avaient besoin de cette opération.
Ouais. Mais, bah, de tout, moi, je pense que c'est une question psychique. Enfin. Psychique, vous voyez, un climat, je sais pas comment dire, psychologique.
Oui, mais chez eux ou...
Partout, que ce soit. Oui. Chez eux, bien sûr, parce que c'est la famille qui fait tout quand on est jeune.
Oui.
Et puis, je sais pas, moi, que les parents soient de bons éducateurs, ne pas aller, je sais pas, moi, soient intelligents, ils les punissent pas. Par exemple, mon neveu, il vient tous les jeudis ici. Aujourd'hui, il vient pas parce que sa mère, je sais pas quoi, il a eu des mauvaises notes, hein, Jean-Pierre. Alors, il vient pas. Alors, ça, je trouve ça idiot, moi.
Oui.
Hein? Je trouve que c'est un gosse qu'on va braquer et que c'est pas ça qui va l'inciter à avoir de meilleures notes. Comme il y a des tas de parents qui privent leur gamin de venir à la réunion de Louveteau parce que de faire sa promesse parce qu'il a pas été le premier. Alors, moi, je vais voir ces parents-là, puis je les engueule un bon coup. Je leur dis justement, s'il veut être premier, eh ben, envoyez-le nous et ensemble, on va essayer de faire quelque chose pour lui faire découvrir qu'il faut qu'il travaille, qu'il faut.
Oui. Oui. Jusqu'à quel âge est-ce que vous trouvez qu'il serait bon que les enfants continuent leurs études? Enfin, l'âge minimum. On vient de le mettre à 16.
Moi, je trouve ça pas mal.
Oui. La même chose pour les garçons et pour les filles.
Oh oui.
Il n'y a pas de différence.
Mais bien sûr, après, il y a une autre école. Hein, pour les métiers, de toute façon, il y aura toujours un apprentissage après ces 16 ans.
Une école primaire va jusqu'à 16 ans, mais...
Oui, ah ben ça,
je ne sais pas exactement quels sont les...
Je crois que ça va être l'âge minimum obligatoire, enfin la scolarité.
Mais ça ne sera plus le certificat d'études, ça s'appellera autrement l'examen de fin d'études.
Je ne sais pas ça, je n'ai pas encore vu la...
Je suis d'accord que la scolarité se prolonge, mais si le programme évolue, vous voyez.
Oui.
Que ça ne soit pas une diminution, que ça ne reste pas pareil tout en restant plus longtemps à l'école. Je pense que d'ailleurs, il y a des travaux ménagers pour les jeunes filles là, en ce moment qui vont à l'école jusqu'à 16 ans. Mais c'est bon, ça.
C'est bon, elle sera.
Oui.
Vous êtes satisfaite, vous, de l'enseignement que vous avez reçu?
Oui.
Oui. Est-ce que vous trouvez que l'enseignement a beaucoup changé depuis que vous avez fini vos études? Ça fait pas très longtemps, mais enfin, est-ce que ça a déjà changé?
Moi, je côtoie pas assez de... Moi, je pense pas que ça...
De gosses qui sont à l'école.
Enfin, j'aidais des petites filles comme ça à travailler. Moi.
C'était à peu près pareil.
Oui. À part pour apprendre à lire, ça a changé. La méthode a changé, elle est plus accélérée.
Oui. Pour revenir à Orléans, dont on parlait tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'on fait assez pour les habitants à Orléans?
On est un peu prise au dépourvu, vous voyez, comme ça. Vous auriez dû nous envoyer un questionnaire auparavant pour penser
pour y réfléchir.
Un peu.
Oui. Non, mais justement, c'est bien d'avoir des réactions assez spontanées.
Oui.
Enfin, vous avez quand même... Vous êtes assez bien placé pour répondre, parce que enfin, vous ne voyez pas plus de gens.
Orléans,
vous avez
c'est
des activités
comme dans
sociales
dans toute la
et tout.
Orléans, oui. c'est le problème de toute la France. Quand on demande quelque chose, c'est toujours très long à venir. Quand on demande une bourse, quand on demande une prise en charge pour des petits vieux, pour n'importe quoi, c'est toujours...
Mais ça, c'est peut-être un problème, justement, d'administration lente, de lenteur d'administration.
Oui, mais justement, je dis que c'est peut-être pas
oui, c'est
spécial
pas
à Orléans, mais...
Oui, mais enfin, quand même, on trouve ce problème à Orléans.
Ah oui, bien sûr. Enfin, il y a eu des progrès de fait au point de sécurité sociale, puisqu'on a construit un nouveau bâtiment. Que...
Ah oui, j'ai vu le grand bâtiment,
oui,
là, c'est beau, ça.
Il y a une certaine forme d'accélération pour passer à la caisse. Les gens apprécient ça. Quoique ce matin, justement, en ce moment, je fais mes soins à domicile.
Oui.
Les gens me disaient, c'est pas plus court qu'avant. J'ai attendu
non.
de 9h à 11h.
Voilà. C'est pas normal,
oui,
c'est de faire perdre 2 heures. On peut se faire payer par correspondance. Oui, mais c'est long.
Hein. Oh, oui, mais
on attend 3 semaines.
Oui.
Oh, c'est pas plus.
En général, les gens qui vont à la sécurité sociale parce qu'ils ont besoin d'argent.
Oui.
Et il y en a plus qu'on croit. Parce que des pauvres gens, il y en a encore beaucoup. Hein. Il faut aller chez eux pour s'en rendre compte.
Oui. Et pour ces catégories, il y a des catégories pour lesquelles...
Ouais, par exemple, on a un sujet brûlant. Il y a un quartier des Grous qui vient d'être abattu. Qui va être abattu. On renvoie tous les gens.
Le quartier?
Le quartier des Gros, c'est un quartier...
Ah, c'est un quartier d'Orléans.
Oui, vers les aides, baraques
oui.
d'urgence construites après la guerre, parce que c'est tous ces gens qui étaient là-dedans sont sinistrés, étaient sinistrés. Alors, on pense que ça n'est plus salubre, et c'est vrai, que ça va se démolir. Alors, on a construit des HLM, et on abat... Les baraques, donc on renvoie les gens.
Oui.
Ils payaient 2000, 4000 francs tous les 3 mois, ces gens.
Oui.
Et maintenant, on les met dans des HLM où ils vont payer de 15 à 20 000 francs par mois. Il y a des retraités, des grandes familles, des cas sociaux. Comment voulez-vous qu'ils
payent ? Quand on lit dans les journaux où on fait de plus en plus de HLM, où on reloge les gens, on oublie de dire la contrepartie, que les loyers passent de 4 000 francs pour le trimestre à 75 000 le trimestre.
Voilà.
Oui. Mais...
Alors, résultat, ça fait du travail pour nous, parce que tous ces gens-là, ça les rend malades, mais malades et traumatisés. Hein.
Mais ils ne peuvent pas payer,
c'est incroyable. Mais même, parce qu'ils doivent s'en aller à la fin du mois. Alors, ils sont un souci fou. Ah oui, ils ont été prévenus peut-être au début du trimestre, vous voyez, puis ça fait déjà longtemps qu'on en parle.
Oui.
Ils n'y croyaient pas. Quand on chasse les gens de chez eux.
Alors, c'est pas tellement un bien, ce genre de modernisation. Enfin,
c'est un bien parce que ça sera beaucoup plus salubre et peut-être
d'un standing élevé, mais
s'ils peuvent pas
pour les gens, c'était là qu'ils se plaisaient. Et c'est là qu'ils étaient heureux.
Et oui, et si leur salaire leur permet pas de te payer...
Oh non, bah alors ça non, ils ont des petits salaires. Bah, parce que c'est une catégorie de gens de la classe ouvrière, puis même il y a des retraités, il y a tout ça. Puis il y a des cas sociaux aussi, bon bah, il y en aura toujours. Hein, la société est faite ainsi, il faut avoir de toute catégorie.
Mais alors, pratiquement, je vois comment on pourrait faire pour éviter ces transplantations. Enfin, il faut bien être d'un autre côté
que les loyers soient moins élevés.
Oui.
C'est ça.
Prendre en considération le loyer payé par les gens avant. Et...
Comme nous, on doit nous démolir, là. Parce que vous avez vu où ça s'arrêtait.
Oui.
Bah, tout, après, où est-ce qu'on va aller?
Oui.
En ce moment, on ne paye pas cher ici, mais quand on va être dans les HLM, le loyer va être peut-être 10, 15 000 francs par mois.
Oui.
Oui. Vous avez qu'à demander à ma mère.
Oui.
Elle est dans ce cas-là, elle ne veut pas s'en aller.
Oui. Et quelles sont les personnes qui comptent, les personnes importantes à Orléans?
Pour les gens?
Oui.
Bah, le maire de la ville, évidemment, il compte.
Oui.
Et puis tous ses conseillers, enfin tout ce qui fait le gouvernement, les gens qu'on a élus, quoi. Mm. Ça compte. Et puis les assistantes sociales, c'est à elles qu'on dit les petits malheurs, et c'est peut-être elles qui vont essayer de nous trouver des choses, justement. Mais et ce qui fait tout ça, c'est toujours l'argent. L'argent, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mm. Les gens ne vivent que... Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas vivre. C'est impossible.
Oui, et il y a encore beaucoup de tout petits salaires en France. De...
C'est surtout les petits vieux. Alors là, enfin, quand on est jeune, qu'on arrive à travailler, on va en sentir, quoi. Parce qu'on est... Il y a des petits salaires, mais quand on a une grande famille, c'est difficile. Par exemple, un type qui est manœuvre, qui gagne 60 000 francs par mois, qui a toute une famille à nourrir, bon ben là, il y arrive difficilement.
Oui.
Mais s'il était tout seul, le salaire serait assez pour lui.
Oui.
Hein?
Oui.
Mais ce qui est malheureux, c'est les retraites des petits vieux. Alors là, vous voyez les petits vieux vraiment qui mangent pas grand-chose.
Ils sont obligés de se priver.
Ah oui, parce que
c'est ça,
je
ne
sais plus combien ils ont tous les 3 mois. Ça doit être quelque chose comme 15 à 20 000 francs tous les 3 mois. Non, j'exagère peut-être. Oui. Enfin, je sais que c'est une somme vraiment dérisoire. Mm. Non, 15 à 20 000 francs tous les 3 mois,
là,
ça fait...
Vraiment, non,
ou 50 000 tous les 3 mois, ça fait 15 000 par mois.
Non, c'est impossible de vivre avec 15 000 francs par mois.
Vraiment une somme dérisoire qu'ils ont.
Oui.
Ils sont aidés, ils ont l'aide sociale. Ils ont quelquefois l'assistance médicale gratuite. Mais ça fait pas tout, ça. Quand il faut payer son loyer, manger. Je connais des petits vieux là qui ont été invités à manger, qui ont été invités à passer quelques jours à Paris chez des amis anciens. Ils étaient affolés à cette pensée parce que 2000 francs de voyage pour aller dormir à Paris, ça, c'était impossible pour eux, quoi. Ils n'allaient pas avoir de quoi boucler leur budget pour
la
fin du trimestre.
Oui.
Alors que c'est quand même agréable d'aller chez des gens, vous voyez, tout est bousculé pour une question d'argent.
Oui. C'est moche, ça. Et vous avez vu comment s'est passé mai l'année dernière. À ce moment-là, nous, on était en Angleterre. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce qui s'est passé? Comment vous l'expliquez maintenant? Si ça a eu des retentissements? Mai, juin.
Nous, à Orléans, on s'est senti un peu en dehors du coup au début, parce que la province s'est toujours un peu laissée isolée.
Oui.
Je me rappelle que la première fois qu'on en a vraiment entendu parler, c'était le début. Hein. Il y avait les fêtes de Jeanne d'Arc, là, le maire et l'évêque se donnent l'étendard de Jeanne d'Arc sur le parvis de la cathédrale le 7 mai au soir.
Oui.
Et là, dans leur discours, ils ont parlé un peu des jeunes, justement, ce qui s'était passé à Paris.
Oui.
Et puis d'ailleurs, il y avait des jeunes drôlement en effervescence à Orléans.
Ah.
Parce que... Oui. Mais c'était pas les étudiants. voyez, parce qu'ils savaient que ça se battait à Paris, enfin que ça se battait, c'est beaucoup dire, oui. Que ça remuait à Paris.
Oui.
Ils étaient échauffés, alors ils
mais ont c'était pas
des...
les étudiants.
Non, c'était des jeunes, comme quand c'est les fêtes de Jeanne d'Arc, vous savez, il y a des jeunes, on sait pas trop qui c'est. Alors oui. Ils faisaient des monomes, ils bousculaient tout le monde, ils insultaient les agents. Alors oui. Ils ont été ramassés et puis on les a emmenés au poste de police parce que il y a beaucoup d'agents quoi. Je sais pas si vous oui. avez déjà assisté aux fêtes de Jeanne d'Arc, mais il y a tout un déploiement de gardes qui nous empêche de passer par-dessus les barrières. Alors ça a été assez facile. Et puis après, eh bien, il y a eu les grèves. C'est comme ça qu'on a été directement touchés. Puis nous à l'école, les infirmières de Paris, elles nous ont envoyé une lettre pour nous mettre enfin dans le coup. Mm-hmm. Alors il fallait qu'on mette sur pied tout de suite des délégués de classe parce que ça n'existait pas avant, qu'on fasse des revendications. Elles nous ont passé les leurs pour qu'on pour fasse à peu près pareil qu'elles. Et puis finalement, oui, ça se rejoint. On s'est retrouvés à Paris. Alors elles étaient décidées, sur le plan infirmière, je parle, hein, parce que le reste, je ne connais pas. Elles étaient décidées à faire des pétitions, envoyer au ministre, tout ça. Alors nous, ce qui a été assez enrichissant, c'est qu'on a toujours fait avec la direction à l'école. Hein. On a fait des délégués de classe, on a fait des réunions, on voulait présenter des revendications, notamment les étudiants en 3 ans, mais ça s'est fait toujours avec la direction.
Oui.
Et on a été à Paris, donc parce que j'étais déléguée de classe.
Oui.
Et on a eu une grande réunion avec... les filles de Paris, et on s'est manifesté. On a dit, nous, on veut pas que vous disiez toute la France veut qu'on fasse telle et telle revendication, parce que Paris, vous y allez un petit peu fort. Vous oubliez souvent que la province est là, et que même que vous soyez très nombreuses à Paris, nous, on compte aussi, on veut, on a notre mot à dire.
Oui.
Alors, on n'a pas signé la pétition, et on a refusé, quoi.
Oui.
Et puis après...
Parce que les revendications n'étaient pas celles que vous vous demandiez, vous.
C'est-à-dire qu'on en demandait, vous voyez, mais on sentait vraiment que, bon, ben, ils avaient envie de... Ils n'étaient pas modérés, quoi.
Oui.
Ils voulaient abolir les directions, plus de monitrices comme elles étaient, mais elles les voulaient autrement. Enfin,
ils
voulaient un peu trop tout renverser.
Oui. Et d'une façon...
Alors après, quand on est revenu, on a décidé de faire une réunion de région. Alors, nous, dans notre région, il y a 5 départements.
Oui.
Alors, toutes les déléguées des écoles se sont réunies et on a bâti ensemble une pétition cette fois.
Oui.
Qu'on a votée à bulletin secret.
Oui.
Et justement, il y avait toutes les voix étaient pour et aucune contre. Et on l'a envoyée au ministre de la Santé à Paris. Et il y avait signature des directrices de toutes les écoles, des monitrices et des déléguées de classe.
Oui, alors là, ça a du poids.
Oui, ça a du poids.
Et vous avez obtenu satisfaction ?
Oui, puisque maintenant, c'est passé au journal officiel. Le diplôme d'État qu'on va passer cette année est révisé.
Oui.
On a d'autres... par exemple, on avait une épreuve en salle d'opération, alors qu'on n'y va qu'un mois en stage, puis on n'est pas du tout sûr d'y aller après, elle est supprimée. Une épreuve de diététique infantile, pareil. Vous voyez que c'est beaucoup plus intelligent. Par exemple, la pharmacie, on avait un écrit en pharmacie, alors que maintenant, ça va être inséré avec la médecine. Par exemple, on parle d'une maladie, et puis on dit, bon, ben, avec quel médicament on va la traiter. Puis alors, en oral aussi, on a quand même quelque chose en pharmacie, mais autrefois, il y avait un écrit de pharmacie.
Oui.
Et puis alors, depuis, on a continué à avoir des délégués de classe et des délégués... du CNEI, parce qu'on a monté une association d'élèves infirmières nationale à partir de la réunion de Paris. Malgré tout, elle n'a pas été que négative.
Oui. Hein? Dans l'ensemble, ça a plutôt l'air d'avoir été
enrichissant. Mais le 20 mai, dans notre école, ça a été formidable, parce qu'avant, c'était la directrice, les monitrices et les élèves. Donc maintenant, vraiment,
tout le monde travaille.
Il y a des travails de groupe de fait. Quoique les travails de groupe, c'était fait déjà un peu avant. Mais... il y a un travail, quand on va changer une méthode, on nous demande notre avis. Vous voyez, c'est vraiment plus la dictature comme avant, quoi.
Et ça, même l'administration est contente. La directrice et monitrice préfèrent ça.
Oui, elle préfère ça. Au point de vue autoritarisme, c'est les délégués qui vont nous dire, bon, ben, y a des papiers qui traînent, tandis qu'avant, c'était la directrice qui venait nous engueuler.
Oui.
Et puis, au point de vue bibliothèque, c'est nous qui le prenons en charge. Enfin, on a oui. pris plusieurs choses comme ça en charge.
Mm-hmm. Et d'un point de vue plus général, enfin, pas uniquement en vous plaçant au point de vue oui. de votre école.
Point de vue plus général, ben, on est assez resté en dehors, nous, milieu médical, on reste...
Oui.
Nous, on fait la grève que vraiment à l'extrémité. On l'a fait, la grève, mais par solidarité, quoi. Un oui. jour, c'est tout.
Oui.
Il y a eu des manifestations à Orléans, mais nous, on est toujours enfermés dans notre hôpital. On ne peut pas... Puis les conduira-t-on. Moi, j'aime bien croire ce que je vois, quoi.
Oui. Est-ce que les différences entre les classes sociales, entre les milieux, sont très marquées, Orléans ?
Oui. Ça dépend des gens, mais dans la mentalité orléanaise, oui. C'est bourgeois, Orléans.
C'est très bourgeois, Orléans, oui. Ça a l'air. Oui. Et comment ça se manifeste ? Enfin, comment ça s'organise ?
Les bourgeois, c'est-à-dire... dont les parents sont des encore des deux, ceci ou de cela, se retrouvent entre eux, quoi. Ils vont dans les mêmes classes, alors ils ont des écoles...
Ils vont à l'école privée, par exemple.
Ils vont à l'école privée où ils se retrouvent tous. Alors, ils sympathisent entre eux à l'école et ils se retrouvent après à l'école.
Oui. Et ils forment un milieu très fermé.
Ah oui. Par exemple, dans le mouvement scout, on dit que c'est aussi... ça touche pas toutes les catégories de la société, hein. Alors, on en retrouve des filles bourgeoises qui viennent dans le mouvement scout.
Oui.
Alors, on est amis, vous voyez, pendant qu'on est dans le mouvement. Et puis, on essaie de faire des efforts parce qu'on se rend compte de ça et qu'on veut lutter contre ça. Mais c'est plus fort que soi qu'on va passer une journée ensemble. Mais parce que c'est Scout de France. Mais après, on se retrouvera pas, par exemple, à une soirée chez l'une, chez l'autre.
Ah bon, à ce point-là.
Enfin, personnellement, oui. moi, je serais très gênée d'aller chez une fille bourgeoise.
Oui.
D'être invitée chez elle et... Je ne me sentirais pas à l'aise, quoi.
Oui.
Mais vraiment bourgeoise, parce qu'il y a des petits... Il y a des employés qui, par leur situation, ont gravi des étapes, hein. Mais alors ça, non. Mais ceux qui sont vraiment bourgeois et puis qui veulent le rester.
Oui. Est-ce que vous croyez que ces différences ont plutôt tendance à augmenter ou à diminuer ou à rester sensiblement
la même chose ? Même.
À diminuer quand même.
Heureusement.
Oui. Et par exemple, vous, quand vous côtoyez des gens, est-ce que vous pouvez vous rendre compte tout de suite de quel genre de gens il s'agit ?
Moi, je pars d'un principe qu'il ne faut jamais juger les gens d'abord. Ne pas les juger, mais surtout d'après leurs apparences.
Pas les juger, mais...
D'après leurs apparences, voyez.
Enfin, pas porter un jugement moral, si vous voulez.
Vous voulez dire...
Je veux dire les situer dans tel ou tel milieu.
Oui, quand j'en ai dire porter un jugement. La façon dont ils sont habillés, etc.
La façon dont ils parlent, dont ils... etc.
Non, on ne peut pas dire que... Parce qu'il y a des gens bourgeois qui parlent très simplement, qui sont habillés simplement, puis d'autres, au contraire, qui...
Oui.
qui sont éduqués, moi, puis qui sont pas grand-chose, quoi.
Oui.
En général, les bourgeois sont intelligents, malgré tout. Oui. Alors, quand on est intelligent, on ne se manifeste pas...
C'est peut-être une question d'éducation, aussi. Ils sont reçus, en général, plus d'éducation.
Peut-être.
C'est peut-être une question d'intelligence brute, enfin...
Oui, l'intelligence part de l'éducation. Enfin, dans les bourgeois que je connais.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour la maison de la culture, en fait. Je crois que c'est beaucoup une question d'éducation.
Oui.
Et par exemple, pour en revenir à l'éducation, qu'est-ce que vous pensez de l'école publique et de l'école libre ? Comment est-ce que les gens font le choix entre les deux ? Est-ce que vous êtes favorable à...
Bah, Les gens font le choix en fonction de leur porte-monnaie, parce que...
En fonction de leur porte-monnaie.
L'école privée est très chère, et puis...
Oui.
Ceux qui sont... Il y en a qui aimeraient bien que leur... Je parle de l'école religieuse qui aille à l'école religieuse, mais comme c'est cher, bah, ils vont à l'école publique.
Oui.
Oui. Puis aussi parce qu'ils pensent que dans les écoles religieuses, ils seront avec des gosses qui ne sont pas du même milieu, alors...
Oui. Je regarde où j'en suis maintenant. Je vais vous poser des questions d'un genre un peu différent sur le français en général, puisque les bandes sont faites pour des étudiants anglais. Je vais vous demander si un étranger voulait venir en France pour apprendre le français. Dans quelle région est-ce qu'il devrait aller d'après? Est-ce que vous avez une idée?
Pour apprendre vraiment à parler comme il faut.
Oui.
Bah dans la Touraine, parce que c'est Touraine. Là où on parle le mieux, mais chez nous aussi, on y en parle.
Oui.
On en parle pas mal.
Est-ce qu'il y a des endroits que qu'il faudrait éviter?
Il vit en France, il voit tout ce qu'est la France. Je ne sais pas s'il y a tellement de choses à éviter.
Oui. Est-ce qu'il y a des gens qu'il devrait fréquenter? Plus que d'autres, enfin, s'il voulait apprendre.
Bah, il faut qu'il côtoie tous les milieux s'il veut vraiment connaître ce qu'est le français.
Mm-hmm.
Mais justement, dans le milieu le plus défavorisé, c'est pas très facile à y entrer.
Ah, oui, tout à l'heure, on disait que c'était difficile d'entrer dans les milieux très bourgeois.
Ça dépend. D'un autre côté. Ça dépend. Par exemple, un étranger qui vient pour apprendre le français, il entrera très bien dans un milieu bourgeois. Parce que là, ils seront beaucoup plus ouverts. Oui. Et par exemple, nous, enfin, je me classe dans la catégorie des petits ouvriers. Peut-être qu'eux, ils sont ouverts, mais c'est nous qui aussi, c'est un peu comme le racisme, ça. Nous, on n'ose pas aller au-devant d'eux, quoi. Parce qu'on a des complexes d'infériorité.
Vous croyez que les gens ont des complexes d'infériorité?
Ben, j'en suis sûre.
Oui.
J'en suis certaine.
Et pourquoi?
Pourquoi? Ben parce que parce qu'on se sent inférieur.
Ben oui, mais ça c'est peut-être ça revient peut-être encore toujours à la même chose. À...
Parce qu'on n'a pas une aussi belle maison qu'eux, parce qu'on n'a pas des beaux tapis par terre, parce que ceci, parce que cela.
Oui.
Parce qu'on ne pourra jamais leur rendre ce qu'eux pourront... Vous voyez, s'ils nous invitent, ben nous, on ne pourra pas leur rendre de la même façon. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on est inférieur.
Oui.
Puis on aura peur d'être mal... D'être... Peut-être pas critiqué, mais... Je sais pas... D'être jugé vraiment ce qu'on est, alors...
Est-ce que vous croyez que ça peut changer, ça? Enfin, que c'est parce que...
Ça mettra longtemps à changer, mais j'espère que ça changera. Si on veut que notre label liberté, égalité, fraternité soit...
D'après vous, quelles sont les difficultés de la langue française pour un étranger?
Je sais pas, je connais que le français.
Du français, les difficultés du français, quoi, enfin. Est-ce que le français, c'est difficile comme langue?
Bah, c'est ce qu'on dit. Tout le monde dit que c'est ça, difficile. Mais... Enfin, je sais pas, je connais pas d'autres langues, alors je peux pas dire si elle est plus facile.
Ah non, mais justement...
Je peux pas comparer la langue française à une autre langue, étant donné que j'en connais pas d'autres.
Oui.
Mais enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'homonymes et de synonymes, et c'est ça qui trompe les gens.
Oui.
Puis il y a aussi des tas de... d'exceptions. Il y a une règle, mais il y a toujours des exceptions à savoir par cœur.
Oui. Si quelqu'un était de passage à Orléans et vous demandez ce qu'il pouvait faire pendant son séjour, qu'est-ce que vous lui conseilleriez de faire?
Alors, ça dépendrait de sa personnalité.
Oui.
S'il aime le sport, bah, je lui dirais partout où il peut aller.
Oui.
Sinon, pour se détendre, je l'enverrai à Olivet, parce que je trouve que c'est très joli. Il y a un peu tout ce qu'il faut. Il y a
la c'est joli, Olivet.
Très joli.
Je suis là depuis 15 jours, mais je sais pas encore
où. En général, même, je l'emmène, je prends ma bagnole.
Je travaille tout le temps.
Vous voyez, J'aime bien faire visiter ma région.
Oui.
Il y a des Africains qui sont en France, qui sont en stage en France, à l'hôpital. Je les promène assez souvent,
oui,
pour leur montrer les beautés de la France.
Oui. Et c'est mignon, Olivier, c'est tout près, là, c'est de l'autre côté.
Oui, enfin, tout près. Un
petit kilomètre.
T'as 5-6 kilomètres.
Oui. Et là, on peut se promener le long du...
Oui, alors il y a le Loiret, il y a des moulins, il y a des cygnes sur le Loiret, mais le Loiret, il est très joli, il est bordé de petites maisons.
Oui.
Il y a des, il y a un terrain de golf, des beaux hôtels, des barques à louer, des petits dancings le dimanche, des petites boîtes. Mais au point de vue nature, c'est très, très joli.
À propos de ça, je suis en train de penser à la source.
Oui.
Ça, qu'est-ce que ça a changé quelque chose, Orléans, la source et
non,
les étudiants? Non, c'est resté très à part.
On les voit jamais.
Vous les voyez jamais. Ils vivent vraiment séparés.
Oui.
Ils ne sont pas devenus... Ils ne sont pas intégrés à Orléans. Oui. Là, je vais vous poser une question qui va peut-être vous paraître bête, mais... parce qu'il y a souvent des petites différences de détail entre les pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites une omelette?
Pourquoi vous... Oui, c'est vraiment drôle.
Simplement, racontez comment vous faites une omelette.
Eh bien, on prend des œufs, en
oui,
conséquence des personnes qui mangent.
Oui.
Puis on les casse dans un bol.
Oui.
Blanc et jaune, évidemment. On
oui,
remue le tout, on ajoute... du sel, du poivre, des fines herbes, si, pour ceux qui aiment ça. Ou,
oui.
Ou alors on peut faire l'omelette aux pommes de terre ou aux champignons, tout ce qu'on peut. Il y a de l'omelette aux... Les feuilles vertes, maman, comment ça s'appelle?
L'estragon.
Non.
Persil.
Ce que tu as apporté. Oui, bien sûr, on met du persil quand on n'a pas de fines herbes. Mais non, ce que je t'ai accueilli l'autre jour dans le jardin, hein, qu'on a mangé. C'est vert, comme des épinards, mais c'est pas des épinards.
Ah, de l'oseille?
Oui, l'oseille.
Ah oui, c'est bon ça. Oh, c'est pas l'oseille, ce que j'aime. Oui.
Et puis on remue le tout et on le passe dans la poêle où il y a eu du beurre qui a fondu. Il faut que ça soit saisi. Mais si vous faites une omelette aux pommes de terre, il faut d'abord faire cuire les pommes de terre et jeter les œufs dessus.
Oui.
Pareil pour les champignons. Puis après, ben, avec votre fourchette, hein, vous ramenez tout vers le milieu.
Oui.
Et puis si vous la voulez baveuse, vous la faites cuire pas longtemps. Si vous
ne
voulez pas baveuse, vous la faites cuire longtemps. Voilà.
Bon, très bien. Alors là, c'est des questions plus sur la langue, sur le français. Est-ce que vous avez un dictionnaire?
Oui.
Oui. Et une encyclopédie, des encyclopédies, vous savez, comme les encyclopédies. Ah ben oui, j'en ai vu une là tout de suite. De
ah oui, mais ça c'est mon... Parce que c'est mon métier, quoi.
Ben oui, mais quand même.
Oui, en général...
Mais vous avez autre chose que l'encyclopédie de médecine?
Oui, sur les pays, sur la géographie, sur...
Oui.
On a...
Vous trouvez ça utile?
Bon, très utile.
Très utile? Vous êtes pour? Et qu'est-ce que vous avez comme dictionnaire? Le Larousse?
Oui.
Larousse. Le Larousse en évolue le...
Ce qu'on a eu
au
certificat. Voilà, c'est ça.
Au certificat, on reçoit généralement.
Vous avez ça aussi en Angleterre?
Oui, enfin à peu près l'équivalent. Et vous en servez souvent?
Enfin, maintenant je m'en sers moins, mais avant je m'en servais.
À peu près combien, enfin, par exemple, combien de fois par mois ou par an?
C'est-à-dire que maintenant, j'ai un dictionnaire médical parce que je recherche plus comment les mots français s'écrivent.
Oui.
Parce que maintenant, je sais.
Oui.
Mais par exemple, un nouveau mot que j'apprends dans la médecine parce que c'est des mots assez à part.
Oui. Ah ben, vous avez un dictionnaire médical aussi.
Oui.
Mais enfin, votre dictionnaire Larousse, il vous arrive quand même de le consulter encore?
Oui, quand on veut savoir une définition sur laquelle on se dispute avec...
Oui. Oui.
Avec certains gens, quoi.
Par exemple, est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous l'avez regardé?
Oui, on l'a pris à l'école parce qu'on traitait sur l'euthanasie. Et on
oui,
voulait savoir ce que Larousse disait parce qu'on voulait savoir son avis, quoi. Puis on a pris le dictionnaire médical qui
oui,
rajoutait autre chose.
Oui. Est-ce que vous avez des livres sur la façon d'écrire ou de parler, les difficultés du français, ce genre de choses? Non. Est-ce que vous trouvez que c'est utile?
En ce moment,
oui,
quand on va en classe,
quand
bien
on
sûr,
va en classe,
hommes,
oui.
Bah, c'est utile Quand on a été à l'école et qu'on sait maintenant parler et écrire, bah, oui. À la maison, c'est peut-être pas utile, mais si on sait pas, oui, bien sûr que c'est utile.
Oui. Est-ce que vous faites des mots croisés?
Non, j'ai pas le temps. Mais je trouve ça très bien.
Vous trouvez ça bien?
Ah, oui, j'en fais pas, mais je trouve ça bien.
Pourquoi?
Parce que ça cultive, ça apprend de nouveaux mots, ça permet de chercher un peu.
Oui.
Ça... En général, les gens qui font des mots croisés sont déjà doués. Je me suis aperçue de ça.
Ah bon?
Ouais, dans les malades, ceux qui faisaient des mots croisés, c'est des gens pas bêtes.
Ah bon?
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez du franglais, c'est-à-dire d'employer des mots français?
Alors, j'ai horreur de ça.
Ah, voilà, hein? Quelqu'un est contre. Oui, pourquoi?
Bah, parce que je trouve qu'on a une langue et qu'on doit la respecter. D'ailleurs, moi je trouve que ça met des gens qui ne savent pas l'anglais dans un mauvais état d'esprit. Comme par exemple, l'autre jour, notre monitrice, elle nous dit « Vous allez faire un triptyque. Hein, » Moi, je ne savais pas ce que c'était. Évidemment, je n'ai pas levé le doigt pour demander. Puis il y en avait plein dans la classe qui ne savaient pas. Bon, bah, triptyque, qu'est-ce que c'est? Elle nous aurait dit une récapitulation avec 3 feuilles, ça aurait été 100 fois mieux.
Oui.
Alors après, évidemment, j'ai demandé à une camarade, elle était là, elle nous a entendus.
Et puis elle nous a expliqué.
Et puis, je ne sais pas, moi, tout. Maintenant, avant, c'était le français qu'on apprenait. Enfin, ça, c'est un peu Chauvin. Puis maintenant, c'est l'anglais que... Parce que nous, on n'a pas su respecter certains mots. Par exemple, tous les Français maintenant disent week-end, des trucs comme
ça. Snack bar, parking, dancing, cuisine. Oui.
Enfin, ça, je ne suis pas encore trop... je ne suis pas trop contre, quoi. Mais je me dis que si au train où on y va, bientôt on parlera plus français. Alors qu'il y a des tas de beaux mots français qu'on pourra employer et qu'on n'emploie pas.
Oui.
Parce que la langue française est très riche, alors pourquoi ne pas se servir de tout?
Oui. Tout à l'heure, vous parliez des différences entre les milieux sociaux en Orient. Est-ce que vous trouvez qu'il y a aussi des différences entre les façons de parler des gens?
Oui, c'est sûr, ça.
Et est-ce qu'elles sont grandes, très grandes, ou pas très importantes ou...
Au point de vue vocabulaire, elles sont grandes parce que ils ont beaucoup plus de vocabulaire, les gens bourgeois.
Oui.
Et puis évidemment, les gens qui n'ont pas beaucoup de culture, ils écorchent certains mots.
Oui.
Mais je crois que ça vient des contacts qu'on a. Parce que quand on côtoie des gens qui parlent bien et même qui sont ouvriers, quoi. Ça dépend des contacts qu'on a. Par exemple, quelqu'un qui est bonne, qui est chez un bourgeois, elle parlera bien parce que toute la journée, elle entendra bien parler, vous voyez. Mais alors, par exemple, des régions comme le Berry, le Midi, alors là, on parle très mal français.
Ah bah oui. Ah bah, je vous demandais ça tout à l'heure.
Alors, le Berry, c'est incroyable.
Ah, dans le Berry, on parle mal.
Ah oui, dans le Midi aussi. Tous les pays à accent, quoi. En Bretagne, alors là, vous comprenez rien, même que vous êtes français.
Je connais pas beaucoup la Bretagne. J'ai toujours envie d'y aller, mais...
Ça doit se rapprocher de chez vous, sûrement.
Et selon vous, est-ce que les gens parlent de plus en plus mal, de mieux en mieux,
de mieux en mieux?
Et de quoi ça vient?
Ça vient de l'évolution du monde.
Vous constatez ça, que les gens parlent?
Ah oui, je constate. En ce moment, c'est incroyable. Peut-être justement aussi un autre contact, parce que en classe, on a appris de nouveaux mots, tout ça. Maintenant,
vous avez d'autres frères et sœurs?
Oui.
Vous êtes
j'ai un frère qui est à l'armée à Tours en ce moment.
Oui.
Typographe, alors justement, il faut qu'il soit très...
Qu'il ait
un vocabulaire très, très riche et bon, quoi.
Oui. Parmi vos connaissances, quelle serait la personne qui parle le mieux français que vous connaissez, enfin, comme profession.
C'est celle qui était monitrice quand j'étais élève auxiliaire puériculture.
Oui.
Et qui, avec qui j'ai toujours des contacts. Elle est puéricultrice.
Oui.
Et c'est une fille qui parle très bien le français.
Où c'est?
D'ailleurs, elle est puriste.
Oui. Elle fait très attention.
Et c'est naturel. C'est... Tous les jours, quoi. Puis on a aussi un docteur.
Oui.
Qui nous fait les cours. Et... C'est parce qu'il nous reprend, vous voyez.
Il vous reprend quand vous parlez.
Oui. Ah oui. Oh, bah l'école, ça, on nous reprend. Surtout, hein.
Sur quel genre de choses?
Sur la façon de s'exprimer et le français qu'on emploie, on est très, très à cheval. La médecine et le milieu médical est très à cheval sur l'orthographe, sur la façon de s'exprimer et de dire les choses. Quand on a des rapports à faire entre collègues ou avec le médecin, il faut surtout pas employer un mot pour un autre. Mais vous savez que dans notre métier, on fera des gourdes incroyables avec nos malades si on employait un mot pour un autre.
Vous savez, l'autre jour, j'ai interviewé une dame. Je raconte ça, ça va peut-être vous faire rire. Et je lui posais les mêmes questions. Elle me dit... souvent les gens emploient un mot pour un autre, c'est ridicule. Par exemple, une de mes amies travaille à la sécurité sociale et elle m'a raconté qu'un jour une dame arrive et lui dit: vous savez, je suis ennuyée pour mon fils parce que le docteur m'a dit qu'il allait avoir des plumes au thorax. Le mot thorax.
Ouais. Comme notre genre, moi, c'est courant chez nous. Il y avait une dame qui me disait qu'elle avait de l'arthrose dans les yeux.
Dans les yeux.
Là, ça. Son globe oculaire, c'était, il avait de l'arthrose. En général, c'est qu'articulaire.
Oui.
Oui, mais je trouve justement ce qui fait qu'on ne s'entend pas entre nous et qu'il y a des heurts entre les gens, c'est parce qu'on ne parle pas le même langage.
Mm-hmm.
Et c'est très important. C'est pour ça que quand je parle à quelqu'un, j'aime bien préciser. Hein, je fais préciser les choses pour que, avant de lui donner mon opinion.
Pour être sûre de, que tout le monde veut bien.
Et ça, c'est dans mon métier que j'ai appris à être comme ça.
Est-ce que ça, c'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets, enfin précis de situations où, parce que les gens ne parlaient pas de la même façon, et où ils ne se sont pas compris, où il en est résulté des choses ennuyeuses pour les uns et les autres?
Moi, ça, c'est l'exemple typique du professeur et des élèves. Le professeur qui emploie un langage et qui n'est pas du tout compris par ses élèves, ou qui parle par geste, c'est la plus même. Il faut bien sûr faire des gestes, mais
oui.
Que ça ne soit pas à la place des paroles, que ce soit pour compléter ce qu'on a à dire.
Oui.
Par exemple, l'autre jour, ma directrice, elle nous faisait un cours de déontologie sur les milieux. On parlait des milieux, justement, pour savoir, nous, il faut s'adapter à tous les milieux de notre profession. Mmh. Alors, elle nous disait que quand on était adolescente, notre monde nous paraissait comme ça. Bon, alors moi, je lui ai demandé qu'est-ce que ça voulait dire comme ça. Si c'était une terre, si c'était comme les murs, c'est vrai.
Comme
quand on fait comme ça, hein, on ne sait pas exactement. Alors on était prête à se, vous voyez, à se. Moi, oui. J'étais sur ma position, elle aussi. Je voulais pas m'engueuler avec elle, donné que c'était ma directrice. Hein. Mais
oui.
Ça aurait été une autre fille, ça serait parti comme ça. Parce que justement, je pensais que nous, on avait dépassé ce stade-là et que notre monde ne paraissait pas comme une terre.
Oui.
Tandis qu'elle, elle voulait dire autre chose.
Oui.
Avec son geste.
Oui. Mmh.
Et c'est parce qu'on a mis les choses au point qu'on sait.
Vous voulez fumer, non?
Non, je ne fume pas.
Ah, très bien.
Vous fumez?
Non.
Est-ce que...
Je fume comme ça de temps en temps.
Moi aussi, mais très rarement.
Les cancers des poumons.
C'est vrai. Hein,
incroyable. C'est...
Est-ce qu'à votre avis, en France, il y a un organisme qui est chargé de décider si un mot fait ou une expression fait partie du français ou non?
À l'Académie française.
Est-ce que c'est utile, très utile ou pas utile?
Utile.
C'est utile.
Utile tout court.
En quoi?
Bon, parce que pour certaines catégories de gens, c'est très important de savoir si tel mot est dans le dictionnaire ou pas.
Oui. Est-ce que c'est important que les journalistes, les speakers à la télévision ou à la radio parlent bon français?
Oh bah c'est très important. Puis alors vraiment, justement, notre directrice, elle nous critiquait ces gens-là qui, c'est peut-être sur un autre plan, mais qui disaient tu à tout le monde, qui...
Oui.
Par exemple, Léon Zitrone, il y a je sais pas qui parlait avec lui à la télé devant tous les téléspectateurs. Il se tutoyait, vous voyez.
Oui.
Et puis, je sais pas, moi, je trouve ça très important que les speakers et les téléspeakerines parlent bien. D'ailleurs, les téléspeakerines parlent bien, mais c'est les animateurs qui...
Et à quoi elle avait vu ça?
Bon, c'était parce qu'elle avait côtoyé des gens...
Oui, l'oche-roche. Je ne pourrais pas trop dire. Qu'est-ce que j'ai fabriqué avec mon métaphore?
Oh. Oui, t'as... Oh, non. Je ne crois pas, finalement.
Non, pas vraiment.
Je vais là.
Oui.
Alors, vous
j'aime beaucoup l'histoire de France.
Moi. Oui. Vous vous intéressez beaucoup alors à ce genre de choses? Civilisation, histoire.
Ah oui, j'aime savoir ce que les gens ont pensé il y a je ne sais pas combien d'années, ce qu'ils pensent maintenant. J'aime savoir la psychologie des gens.
Et au point de vue français, enfin langue française, est-ce qu'à votre avis, enfin vous avez pas quitté l'école depuis très longtemps, mais est-ce qu'on apprend le français mieux, moins bien ou de la même façon
que
quand vous étiez vous-même en classe? Je crois que vous m'avez déjà répondu d'ailleurs tout à l'heure.
Oui, je peux pas dire parce que je sais pas maintenant moi.
À peu près, oui.
Je crois pas moi justement. Vous voyez, la méthode n'est plus la même.
Oui.
Ah non, parce que d'après mes petits-enfants, moi, je sais que et même la petite là qui va apprendre l'école là, même à la maternelle. Elle me disait, la dame, parce que moi je travaille chez beaucoup de gens, et la méthode n'est plus la même du tout. D'ailleurs, les enfants maintenant.
Mais oui, mais on apprend d'une façon différente.
Oui,
oui, mais même.
Le français.
Oui, d'accord, non, mais je veux dire dans la méthode. Hein.
Oui, si, c'est vous voyez ce maintenant, depuis les lettres, il n'y a tout. Maintenant, c'est les phrases entières qu'on leur montre.
Oui.
On a des portugais, donc c'est rien que des portugais. La tête que je fais monter, là, c'est les portugais, il y a que moi qu'on français.
Oui.
Eh bien, les enfants ne parlaient pas du tout un mot de français quand ils sont ici.
Ils ont appris avec ça?
Ah ben, je comprends.
Eh bien,
ils sont les traducteurs de leurs parents, ils sont arrivés en même temps qu'eux.
Ah oui, et les parents ne peuvent pas. Il y en a une, c'est impossible, elle ne peut pas apprendre du tout le français.
Oui, mais dire que la grammaire sera bonne, ça c'est autre chose.
Mais la dame que j'ai vue là, elle se débrouille pas mal.
Ah bah oui, mais celle-là, elle vous l'a dit. Ça fait 3 ans qu'elle est en France.
Non, mais c'est pas tellement 3 ans.
Bah oui, mais elle était dans des maisons bourgeoises.
Oui.
Donc elle a pas eu.
Voilà, ça sera joie. Ouais,
c'est pas pareil du tout. Mais il y en a une. Où tu gardes ton petit là. Elle, il n'y a pas moyen, elle ne peut pas apprendre le français du tout. Du tout.
Oui.
Et elle a 3 enfants. Deux petites filles qui vont à l'école, ben, la petite, elle ne savait pas du tout, et ils sont pas bien, ils n'ont pas d'attendre. Soit ils entendaient parler. Hein.
Et maintenant, elles parlent
très bien
français.
Oui.
Moi, je leur parle en français et ils traduisent à la mère en portugais.
Ils traduisent
Parce que du moment que la mère ne peut. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je comprends pas qu'elle veut savoir qu'est-ce que j'ai dit aux enfants. Alors, ils les traduisent en portugais. Alors, vous voyez, c'est bon, ça.
Oui.
Eh bien non, ils sont meilleurs maintenant, parce qu'il faut tout de même un moment. Pour compter le moins, 6 mois, les laisser comme ça. Oui, parce que l'autre fois, mon fils a voulu en manger, les soldats, là. Eh bien, ça n'y a pas été. C'était amer, mais là, vraiment, je vois bien qu'ils sont doux.
En fait, ils sont doux, ils sont doux. Et vous, donc, quelle était votre matière forte à l'école?
Moi, je n'avais pas.
Oh, ben, vous aviez bien une matière.
Mais j'étais moyenne dans... Ah, préférée?
Oui.
J'étais moyenne dans tout, j'aimais bien le français.
Oui.
Mais je réussissais en calcul, alors j'aimais bien le calcul. On est, c'est la matière où on réussit.
Oui, généralement, qu'on aime. Oui. Habituellement, vous avez toujours quelque chose pour écrire sur vous?
Ah oui.
Oui. Qu'est-ce que quoi un bic comme ça ou un stylo.
Un stylo. Stylo plume.
Vous préférez écrire au... Vous aimez pas écrire au bic?
Non, pas tellement.
Pourquoi ça? Enfin, ça, c'est une question
plus propre. Au stylo plume.
Oui, même pour des choses courantes.
Oh, remarquez, je peux pas dire, mais en général, quand je m'en vais, je prends mon stylo plume dans.
Et puis un calepin, un truc. Un agenda ou du papier, un bloc.
Ah oui, ou alors je l'écris sur une enveloppe.
Oui.
Mais ou si alors par le crayon feutre, ça arrive.
Oui. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez eu un stylo?
Un stylo plume? Oui. C'est parce qu'on me l'avait offert.
Petite, vous vous souvenez pas quand?
Ben, 14-15 ans.
Oui.
Jamais avant.
Mais si par exemple vous écrivez à des amis?
Ah ben, quand je fais du courrier, je fais toujours au stylo plume, parce que toujours je trouve que c'est plus poli.
Et vous prenez un papier spécial?
Un bon papier bleu.
Comme ça.
Un avis terminé.
Ah oui, c'est joli. Moi aussi, j'aime bien écrire.
Des enveloppes adéquates.
Même pour des lettres à des amis, des choses courantes.
Oh, oui.
Oui.
Pour écrire au chèque postal, je mets une enveloppe jaune, parce que ça coûte moins cher.
La dernière fois que vous avez écrit quelque chose, n'importe quoi, c'était quand?
Moi,
tout
hier.
À l'heure? Hier?
Oui, ou ce matin, pour mon rapport de ce que j'avais fait.
Oui.
Il faut tout noter, nous, dans notre métier.
Oui.
Le moindre détail.
Oui. Est-ce que c'est important d'avoir une belle écriture?
Oui.
Très?
Très important.
Pourquoi?
Belle, non, mais lisible, quoi. Hein.
Oui.
Parce que quand vous voyez les toubib, on les oblige à écrire. Normalement, hein, on leur dit qu'il faut qu'ils écrivent. D'abord, c'est une loi de notre métier, écrire à l'encre.
Oui.
Certaines choses en chiffres romains pour que ce soit bien lisible pour les ordonnances. Mais on ne comprend rien, ces pauvres gens qui ne savent déjà même pas ce que c'est que leur médicament. Il faut qu'ils aillent chercher des gens qualifiés pour... Qu'est-ce qu'il a écrit le docteur, là?
Oui.
Et puis même, je trouve que c'est un manque de politesse de mal écrire.
Oui.
Si on écrit à des gens, il faut qu'ils comprennent. On se met à porter des gens qu'on écrit.
Oui. Et est-ce que c'est important d'avoir de l'orthographe?
Oh, très important. C'est pareil, c'est mal élevé d'écrire. Hein.
Oui.
Puis je sais pas, moi, ça nous dégrade, manquer de l'orthographe. Ça dégrade la personne, je trouve.
Oui.
Et en ce moment, justement, il y a un garçon qui est cuisinier à l'hôpital. Il voulait jamais écrire de carte postale ou écrire à des amis parce qu'il savait qu'il faisait beaucoup de fautes.
Et il en était gêné.
Oui, alors il n'écrivait pas. Alors au bout de longues conversations, j'ai réussi à lui faire comprendre qu'il fallait qu'il se cultive puisqu'il trouvait que c'était pas bien.
Oui.
Et puis qu'il fallait qu'il écrive, mais bien sûr qu'il pallie à cette carence-là.
Oui.
Alors je lui donne des cours de français.
Et ça marche?
Oui, ça marche. Il fait moins de fautes. Bon, je fais ça à mon échelle, je vais faire des petites dictées, je lui explique les accords, pourquoi ça s'écrit de telle façon, malgré que c'est pas ma branche.
Est-ce que vous seriez favorable à une réforme de l'orthographe? Vous savez, on en parle souvent, par exemple, d'écrire, au lieu d'écrire rythme, R-Y-T-H-M-E, de l'écrire R-I-T-M-E, des choses comme ça.
R-I-T-M-E?
Oui, enfin, toutes les anomalies de l'orthographe en français, de simplement changer l'orthographe.
Oh, mais alors nous, on serait complètement perdus, alors.
Oui. Donc vous seriez pas très favorable?
Moi, je sais pas, pour peut-être que nos enfants, ça favorisera les choses. D'abord, qui est-ce qui a inventé l'écriture? Qu'est-ce qui a pensé que ça serait bien d'écrire comme ça?
J'ai fait des prunes aussi à l'autre fille.
Ah, j'ai jamais lu ça, des prunes à l'autre fille.
Si. Mais je sais pas si c'est tellement bon.
Ah, si, c'est bon.
Mais fais-nous goûter.
Ah, enfin, non, va clair. Non, je vois plus clair si j'essaye. Hein.
Parce qu'il est juif, il est noir en haut.
Ah, c'est...
Et si tu le loues, fais voir si ça fait pchit.
Bah, certainement. Je crois
que vous me ramassez en bas de l'escalier. Hein.
Oh. Mais pas haut, alors.
Quand même. Je passe à travers.
Là, vous savez, notre
propriétaire,
parce que c'est
pour
moi,
c'est pas vrai, la maison. On vous retente pas, vous avez
une interview
à faire. Combien vous en avez fait jusqu'à maintenant?
On voulait en faire 300, on va pas en faire tant. Normalement, on en fait 3-4 par jour chacun.
Et vous êtes nombreux?
Au début, on était plus. Maintenant, il y en a qui sont rentrés en Angleterre. Enfin, généralement, on est à peu près une dizaine.
Vous voulez quand même un petit peu de jus avec?
Un tout petit peu. Combien est-ce que vous écrivez de lettres en moyenne par mois?
Ça dépend, mais 4-5.
4 ou 5.
Dépend ce que j'ai à faire, voyez.
C'est des circulaires à envoyer, j'en écris beaucoup.
Mais vous voulez dire à mes amis?
Oui.
Donc oui, à mes amis, j'en envoie pas plus de 6.
Oui. Et pour votre travail?
Bah pour mon travail, ça c'est au sein de l'hôpital, c'est autre chose.
Oui, mais en fait, ça vous fait...
Tout. À chaque fois que je fais quelque chose, que je fais un geste, je le marque sur un cahier.
Uh-huh. Oh, c'est délicieux. Oh, vous devriez essayer, c'est absolument délicieux.
Oui, on va se l'adapter, ça fait un moment que j'ai
eu l'impression. C'est tellement parfumé. Si c'est
bon. Oui. Oh. Non, on prend la grande cuillère, Nicole. Parce
c'est plus parfumé que les cerises. Hein.
Parce que c'est, si on prend pas la même chose, vous comprenez, ça abîme après.
Ah, c'est ça, les parce que c'est parfumé, hein.
Ah, mais ça les a drôlement rétrécis, hein.
Oui, mais est-ce que c'est bon?
Ah oh, oui, ça c'est vrai.
Ah, oh, pour une fois, t'as fait quelque chose de bien.
Ah,
oh,
c'est bon.
Pourtant, j'ai un gourmand qui va
passer par là. Ah, ça c'est...
Alors là, je... Et je le possède.
Sincèrement, je n'ai jamais mangé aussi bon, ça.
Non, c'est bon, j'ai fait des confitures, et je ne sais pas comment ça se fait, j'ai réussi à faire des confitures. Il n'y a pas assez d'air par là-bas.
Peut-être le jus.
Alors, j'ai décidé de tout faire à l'eau de vie maintenant. Et ça me revient à manger, malgré tout, que le litre d'eau de vie, c'est 1000 francs quand même. Mais ça les saisit.
Vous voyez tout de suite.
Ça fait juste un an.
Parce que c'est bon, ça.
Et c'est au mois de d'août qu'on fait les machins.
Oui.
Eh bien, ça fait un an. Est-ce que ça, 5-6 mois.
Est-ce que vous conservez les lettres que vous envoient vos amis,
famille?
Oui, toujours.
Surtout les belles cartes postales.
Par exemple, en ce moment, vous en possédez à peu près combien?
Oh là là,
ah, approximativement, quoi, 50, 100, 100,
150.
150. Si vous écrivez à des amis, vous faites un brouillon, vous écrivez directement?
Directement.
Directement. Vous vous relisez quand même?
Oui.
Oui. Et pour une lettre officielle importante?
Oh, non, là, je fais un brouillon.
Vous faites un brouillon. Et vous vous relisez également?
Oui, moi, 3 fois.
Vous prenez un stylo plume? Enfin, vous écrivez madame. Toujours au stylo plume.
Tiens, voilà ma sœur.
Ah, ben, vous avez une sœur aussi, c'est une
famille. 7 enfants.
Et du papier bleu.
7 enfants. Ah non, on va pas prendre une lettre officielle, je prends un papier blanc. Blanc.
Bonjour. On voit pas le fils, on verra la mère.
Travailler à l'école?
Non, c'est pas cette question-là, parce que maman est là pour le dire. Une fois, je l'ai envoyé chez ma mère, il était 1h30. Il était faire son petit tour.
Ah oui, mais là, peut-être qu'il serait arrivé à ce
moment. Et il arrive ici, il était environ presque 4 heures.
Oui, ça, je sais, ce jour-là, oui. Oui, mais là, je l'invitais à déjeuner exprès pour...
Est-ce que vos parents faisaient attention à la façon dont vous parliez?
Non.
Non, il n'y avait pas de punition, en fait, chose comme ça.
Si je disais pas de gros mots.
Oui, sauf pour les gros mots. Bon, ben je crois que notre questionnaire est...
C'est plutôt moi qui faisais attention.
Ah oui.
Elle oublie de dire que tenez, c'est ma fille aînée, celle-là. Mais elle oublie de dire que je les ai aidées toutes seules. Malheureusement, parce que j'ai perdu le père très jeune. Là, mais celle-là, elle avait 12 ans. Alors vous voyez, c'est ma fille aînée, elle a 34 ans.
Oui.
Alors vous voyez, c'est pas hier que je suis donc toute seule. Et j'ai mon fils qui a 28 ans. Et bien, puis alors...
Oui.
Celle-là, puis j'en ai un qui est soldat. Alors, vous voyez. Alors donc, j'ai élevé tout seul.
Oui.
C'est que quand même, à ce moment-là, on n'avait même pas les allocations. Parce que je l'ai eu pour mon dernier de mon fils, et puis quand il a commencé à travailler, ben, on m'avait dit, ah mais dis donc, vous avez touché de trop, il a fallu que je rentre. Ah oui, j'avais commencé à travailler un petit peu, ben oui, parce que j'ai touché 3700 avec ça.
On va faire des folies.
Ah non, non. Tu vite, Nicolas, non?
Comment c'est que je l'étais pour pas que tu te trompes?
Alors, comment c'est qu'on dit?
La contre lutte l'alcool.
Alors, voyez, alors, faut pas trop boire. C'est que ma fille veut pas qu'on boive du tout. Elle lutte contre l'alcoolisme.
Ça, c'est différent.